Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur, Cop Aiglon, votre magazine 100% OGC Nice, le gym abonné au match nul, le troisième consécutif en Ligue 1. Il a été ramené du stade Vélodrome hier, score final, un but partout face à l'Olympique de Marseille. Eli Wahi sur pénalty à 2 minutes de la fin a répondu à Pierre-Emile Højbjerg. Au classement, l'OGC Nice prend 1 point sur la GOCR, battu à Lyon, et compte désormais 5 unités sur la 16e place de barragiste à 3 journées de la fin. Pour m'accompagner ce soir dans Cop Aiglon, le fidèle des fidèles, Nico Nanino, est avec nous ce soir. Bonsoir mon cher Nicolas.
Bonsoir, bonsoir à tous. Très content de débriefer un nouveau match sans défaite.
L'émotion sur la panenka des Iwai en fin de match, on peut la décrire ou pas forcément?
Top 3 vibrations de cette saison, hein. Franchement, il fallait vraiment une paire de cojones XXL. Ouais. Donc on a vraiment vibré. Ouais.
En espagnol, ça passe, on me dit dans l'oreille que c'est bon. Iwai qui a dû être exfiltré d'ailleurs du stade Vélodrome. Et puis Romain Padovani est avec nous ce soir, ancien demi-finaliste de Coupe de France, ancien joueur de Quevilly-Rouen, de Chambly, de Portsmouth, formé au Cavi. Bonsoir Romain.
Bonsoir, un plaisir d'être là pour partager un peu et débriefer sur ce qui s'est passé hier soir.
Mais on est très heureux de vous avoir. Vous avez participé d'ailleurs au match caritatif samedi des anciens Aiglons contre le Star Club vétéran de l'Olympique de Marseille. Et il y a eu victoire et il y a eu aussi doublé.
Il y a eu doublé, ouais. C'était la première fois que je mets un doublé. Donc voilà, peut-être pour finir la petite carrière. Voilà, très sympa. De la tête, c'était mon meilleur pied.
Victoire pour l'Olympique de Marseille. Victoire pour l'Olympique de Marseille, on apprécie toujours plateau. On rappelle que les dons ont été reversés au profit de l'association Les Invincibles, engagés dans la lutte contre la maladie de Charcot. C'est important aussi de le signaler ce soir dans Cop Aiglon. Et puis John Wadiz, qui nous fait l'amitié également d'être là, supporter de l'OGC Nice et membre et leader des Garçons Chics. Salut John.
Toujours un plaisir. Bonjour tout le monde.
Au sommaire de cette émission, on va débriefer évidemment la rencontre, ce match nul, un but partout dans la première partie de Cop Aiglon. La deuxième partie, elle va être divisée en deux. D'abord les top flops de mes invités en plateau et puis le focus évidemment sur le match de mercredi. L'OGC Nice s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Même là, quand je le dis, j'ai quelques frissons là qui me parcourent le corps. Les hommes de Claude Puel sont allés s'imposer à Strasbourg 2-0. Ils affronteront le Racing Club de Lens le 22 mai prochain au Stade de France en finale. Est-ce que cette rencontre, ce Strasbourg-Nice, elle va rentrer dans l'histoire de l'OGC Nice? Est-ce un match historique auquel qu'on a vécu mercredi? Élément de réponse avec mes invités en plateau dans ce 34e épisode de la 5e saison de Cop Aiglon. C'est parti. Nous, on va prendre la direction du Vélodrome pour voir ce qui s'est passé entre Marseille et Nice, avec déjà une première occasion olympienne à la 6e minute. Centre de Wea, tête de Vermeeren. Première intervention de Yevan Diouf, très importante celle-ci en début de match. Et puis Tochukwu Nadi va centrer à destination de Pierre-Emile Højbjerg. Jonathan Clauss n'est pas au marquage et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens qui pensent obtenir les 3 points jusqu'à ce coup de sifflet de Monsieur De Chépy. Grosse semelle de Tajidine Madi sur ce même Jonathan Clauss. Eli Wahi va transformer ce pénalty d'une panelka, s'il vous plaît. On en restera là malgré les 7 longues minutes de temps additionnel. Match nul entre les deux équipes, un but partout. On le rappelle, le gym compte désormais 5 points d'avance sur la GOCR, 16e et premier barragiste. Messieurs, premier débat de la soirée. On va dire les termes tout de suite. A-t-on assisté à un braquage du côté du Vélodrome? Oui ou non? Braquage, pas braquage. Et après, on en discute juste après. Nico.
Braquage, le mot est un peu fort.
Un peu fort.
Oui.
John, oui, oui, sûr et certain.
Oui, ouais, je suis d'accord. Il a quand même montré une certaine solidité défensive. Et c'était le plan de jeu. Donc,
On va commencer par vous, Romain. C'est quand même, on peut parler de braquage quand même sur ce.
En fait,
sur ce match.
C'est le pénalty qui arrive de nulle part. Et miraculeux ce pénalty. Je pense qu'à vitesse réelle, on se dit même c'est pas le Niçois qui fait peut-être faute. Au ralenti, pas de débat. Et il y a la même faute un petit peu sur fin de match,
Madi.
Mais il tombe pas, ouais.
Il n'y a pas l'avantage
parce qu'il peut jouer le ballon. Donc voilà. Par contre, une première mi-temps quand même très compliquée pour l'OGC Nice avec des pertes de balles au bout de 2-3 secondes, ça a été difficile. Hein. Et puis ils ont défendu de plus en plus bas.
Oui, on a remarqué une différence technique aussi mine de rien sur la construction balle au pied des Marseillais. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de schémas de passes qui ont été interceptés dès la relance niçoise en fait. entre défense-milieu. Du coup, on n'arrivait même pas à porter ce danger de la dernière passe parce qu'elle était toujours shortcut par le bloc défensif marseillais. On peut leur mettre ça à leur crédit. C'était quand même un cran au-dessus au début, en tout cas.
Ils ont sorti une statistique à 20e minute de jeu. C'est 130 passes pour l'OM dans le camp adverse au bout de 20 minutes contre 8 pour l'OGC Nice. Ouais, quand même, ça montrait une certaine différence.
Absolument. Attention, Romain a révisé, hein, ce soir. Je vous le dis, ça sort.
Je l'ai noté, cette statistique.
Ça sort déjà de
m'apparu quand même.
C'est dans son bingo.
Pas braquage, ou pas, en tout cas, le mot est un peu fort pour vous, Nico.
J'ai pas eu cette sensation-là parce que je m'attendais typiquement à ce genre de match. Et moi, quand on joue la survie d'un club, la beauté du jeu, elle passe en second plan. Marseille à domicile, ils avaient à cœur de se racheter dans leurs supporters, donc on savait qu'ils allaient être entreprenants. Et nous, il fallait juste concrétiser nos derniers matchs et conforter cette solidité défensive. Après, ça n'empêche pas qu'on a eu beaucoup de déchets techniques, mais je pense que c'est aussi lié à de la crispation, à un manque de confiance. On a vu beaucoup de déchets, notamment au milieu de terrain, et il y avait des espaces énormes à jouer, et on a manqué de lucidité dans ce dernier geste pour aller les piquer en transition.
L'OM qui était privé de 7 joueurs hier, et pas des moindres, regardez dans la liste, figurait notamment Amine Gouiri, le meilleur buteur de l'OM en 2026, et Igor Paixão, sans doute le moins mauvais de l'ère Habib Bey, si on peut l'appeler comme ça, le coach olympien, qui était dans l'obligation de titulariser pour la première fois de la saison, Tochukwu Nadi, Mason Greenwood, lui a joué seulement la dernière demi-heure. Effectivement, est-ce que vous vous attendiez, Romain, à ce que l'OGC Nice subisse autant et garde aussi peu le ballon, notamment en première mi-temps, aussi au vu des absences marseillaises?
Alors, on peut parler peut-être du manque d'ambition de Nice sur ce match, qui vraiment décide de mettre le bloc bas, les lignes de 5, lignes de 4, Wai devant un peu esselé. Et d'ailleurs, ils l'ont cherché peut-être en profondeur, peut-être un peu trop, peut-être le trouver un peu plus dans les pieds, venir en soutien. Ils ont eu du mal, le pressing marseillais a été très intense, ils ont eu du mal à s'en sortir. Une des clés pour sortir d'un pressing, des fois, c'est d'éliminer son adversaire vis-à-vis, de le 1 contre 1, il faut le tenter des fois, et là, il y a tout qui s'ouvre derrière. Ils n'ont pas réussi à le faire. Le premier pressing de l'OGC Nice arrive vers la 75e minute parce qu'ils perdent 1-0.
C'est
Barthes qui va serrer un peu le gardien et qui dit bah là on perd, je vais y aller. Il récupère le ballon et il rate sa tête. C'est Boudache qui rentre sa tête. C'est la plus grosse occasion du match à part le pénalty. Et on se dit un pressing. On est capable de le faire aussi.
Nous, on a raté, mais on a aussi été aidé par Marseille. Je crois que j'ai pas vu. Il y a Nouanéry aussi qui était un choix du coach qui a été écarté par Habib Bey. Il fait rentrer juste Mason Greenwood à la mi-temps parce que, a priori, il revient de blessure. Mais enfin,
Un peu plus tard.
En tout cas, on a vu qu'il y avait pas de souci sur les accélérations. Je pense que tu parlais un petit peu de mettre de côté le jeu. Je te rejoins sur c'est pas la priorité. Ils auraient aussi pu mettre le deuxième but, le troisième but. Enfin, il y avait quand même des situations franches du côté de Marseille. On a été aidé aussi par Marseille. Il faut le reconnaître.
En plus, encore plus densifié en l'entrejeu hier, vous allez le voir avec la composition de Claude Puel. Retour en 3-5-2 au profit du 3-4-3 adopté en Coupe de France. Deux changements par rapport au déplacement à la Méno. Le premier, sans surprise, c'est Yevan Diouf qui reprenait sa place de titulaire dans les buts. Mohamed Ali Chou revenait aussi dans l'11 au départ une semaine après le match de Lille. Il avait été suppléé mercredi par Tom Louchet. Nico, il n'a pas été trop frileux, Claude Puel, sur cette composition d'équipe, notamment contre l'équipe B de l'OM, voire un 3-4-3 avec peut-être plus de chances de projeter, c'était trop risqué.
Pour moi, il a retenu les leçons de notre saison. Combien de fois on a voulu ressortir ou avoir un bloc ne serait-ce que médian et on s'est fait ouvrir en deux. À un moment donné, t'es à 4 journées de la fin, t'es proche de la relégation, tu fais le dos rond, tu subis et je pense que parfois pour se sauver, il faut un brin de réussite et on l'a eu sur ce match-là, ça nous a souvent fait défaut cette saison. Donc aller reprocher aux joueurs cette frilosité ou au coach à ce moment-là de la saison, je trouve que c'est malhonnête parce qu'en plus on leur a beaucoup reproché l'état d'esprit et là depuis 3-4 matchs, franchement c'est pas beau à voir, mais moi je compense ce manque-là par les courses, par les duels gagnés, par la grinta, on a vu ne serait-ce que sur le but, moi je vois de là-bas hurler, c'est des images qui font plaisir, on sent un groupe ressoudé, donc je pense que ça suffira pour sauver, et c'est l'essentiel.
Question spéciale Nico, ce soir, voir rentrer Kyle Boudache à la 67e minute, est-ce que c'était pas un peu tard finalement, vu toute l'animation offensive qu'il a apportée? C'était le cas aussi face à Lille, alors qu'il a eu 3, 4, 5 minutes pour s'exprimer.
Ouais, et à chaque fois il arrive à se créer une occasion. Beaucoup vont retenir son geste raté, c'est vrai que ça fait mal parce qu'il aurait dû marquer, mais moi je retiens surtout qu'il se crée une occasion là où Mohamed Ali Chou et Sofiane Diop ne s'en créent pas. Donc encore une fois, on va parler des statuts, Est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il n'est pas prêt? En attendant, dès qu'il est sur le terrain, il performe, il se montre. Je pense qu'il a une vraie carte à jouer dans cette fin de saison.
Il déclenche beaucoup de pressing.
Il a cette faculté aussi à amener tout le monde avec lui. Donc évidemment qu'on a envie de le voir plus souvent
sur le terrain. La seule chose qu'on a, c'est le timing du gros raté qui est vraiment sur la réaction de l'équipe. Tu parlais de brin de réussite et de cette grinta et tout ça. Et c'est juste là où on se dit, s'il n'y a pas derrière la faute, on en reparle encore sur l'émission de cette action.
Ça vous étonne de ne pas le voir un peu plus jouer, Kyle Voudash?
Moi, j'aimerais bien le voir un peu plus titulaire, parce que titulaire mentalement, c'est pas la même chose aussi. Quand on rentre, on a quasiment rien à perdre, on n'a pas démarré, on doit tout donner. On sait qu'on a moins de temps de jeu, on peut physiquement y aller. Oui, j'aime bien. Bon, il dynamise. On sent quand même que
on n'a pas ce profil, hein, on n'a pas beaucoup.
Ouais, non, franchement, il est intéressant. À voir. Il reste quand même des matchs. Peut-être que Claude Puel va s'y pencher un petit peu.
Pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai, c'est ce qui ressort un petit peu de discussion ce soir. Il faut dynamiser un petit peu plus le secteur offensif. Et Jonathan Clauss, il était frustré quand même globalement de la performance de ses coéquipiers, notamment quand il devait se projeter devant. On va l'écouter.
Au-delà de la compo, je pense que c'est à nous aussi parfois de prendre les choses en main. Alors c'est sûr que c'est très bien de très bien défendre. Et encore, on est parfois sur un fil et c'est tant mieux parce qu'on montre qu'on est aussi capable de faire ça. Mais il faut qu'on propose justement à la récupération des ballons beaucoup plus de courses, beaucoup plus de mouvements. Et là, j'ai parfois l'impression que sur certaines récupérations, on laisse un peu le porteur de balle trop esselé en espérant que chacun fasse une petite différence, alors que justement par le mouvement, déjà qu'on met tellement de mouvements nous tous ensemble défensivement, il faut qu'on le bonifie offensivement aussi.
Romain, quand on est joueur, c'est frustrant des plans de jeu comme ça, être tous derrière à défendre et puis sur une occasion s'exprimer en transition.
Ouais, c'est ce qu'il disait un petit peu, on joue le maintien, c'est le plan de jeu. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit Jonathan Clauss. Et puis c'est difficile, on est très bas pour remonter le ballon, on a fait tellement d'efforts pour le récupérer, il faut redemander, remonter le bloc. Donc en fait, il y a aussi un peu de confiance au niveau des joueurs qui est un peu perdu. On perd le ballon toutes les 3 secondes. Bon, mais quand moi je vais le toucher, il faut surtout pas que je le perde. Parce que ça se répète.
En fait, ces valeurs, elles sont fortes hors ballon. Mais dès qu'il y a le ballon, il y a cette seconde d'hésitation qui fait que le pressing marseillais, il a été assez constant quand même sur tout le match. Et tu peux pas te permettre cette seconde-là. Mais je pense que c'est lié aussi à tout ce qu'on a dit. Ce côté se battre pour le maintien encore quand même, malgré un bon repli défensif, malgré une bonne récupération. Et tu perds des courses, tu perds du temps à casser sa ligne défensive pour atteindre le milieu.
C'est ça. Beaucoup auraient signé d'ailleurs pour un point au Vélodrome avant la rencontre. De là à dire que ça ressemble à une victoire, Claude Puel, il s'y oppose. Écoutez.
C'est pas une victoire. Une victoire, ça serait 3 points. C'est un point important. On verra à la fin de la saison de quelle manière il sera important. Mais je dirais que c'est une semaine globale qui est pas trop mal. Même si c'est toujours mieux de pouvoir prendre les 3 points. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de fatigue mentale, psychologique aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans la semaine.
Alors, je vais revenir sur ce point avec vous, Romain, de la fatigue psychologique, mentale évoquée par Claude Puel juste après la qualification en Coupe de France. Vous aviez atteint les demi-finales en 2018 avec Chambly, à l'époque en national. Victoire au tour précédent, coïncidence oblige, face à Strasbourg.
Ah,
et puis, défaite aux Herbiers. Ça a été difficile aussi pour vous de vous replonger dans le championnat après l'exploit de Strasbourg, après cette euphorie que vous aviez vécue quelques jours avant.
On était un peu dans la même situation, c'est-à-dire très mal au classement. Donc évidemment, nous international cette année-là, le plus important c'est le championnat, mais nous en tant que joueurs, la Coupe de France c'est quelque chose d'extraordinaire, la chance de se qualifier. Et je pense que même pour eux qui sont en Ligue 1, la Coupe de France, jouer une finale au Stade de France, il y a leurs amis qui vont venir, les familles, c'est quand même un moment assez historique, et la gagner c'est fantastique. Moi, je sais pas si c'est un bon souvenir ou un regret, parce qu'elle est en demi, c'est quand même déjà beau. Mais oui, ça puise de l'énergie pour le championnat. Et va falloir vite prendre des points. Il y a un match hyper important contre Lens, parce que s'ils perdent Auxerre gagne, qui reçoit Angers, il y aura une autre finale à jouer. Absolument. Contre Auxerre à la Baie des Champs. Ça fera deux.
Beaucoup de force.
Donc, on va le voir, le calendrier, juste après. Mais ça vous avait galvanisé finalement cette qualification en demi-finale, puisque vous étiez, si je ne dis pas de bêtises, avant-dernier de National au moment où vous qualifiez face à Strasbourg. Vous terminez à la 12e place dans un championnat ultra serré où il y avait 4 points qui séparaient le 5e du premier relégable. À l'heure où certains évoquent voilà, un possible cadeau empoisonné, un parcours à la Reims de l'année dernière, il y a des contre-exemples comme le vôtre avec Chambly.
Ça peut, mais on a le contre-exemple des Herbiers qui, eux, sont allés en finale et sont descendus en N2 à l'époque, c'était la CFA.
Allez, on arrête d'en parler, merci.
donc voilà, vraiment, on a les deux...
Opposé.
Absolument. Nous, l'année où on monte en Ligue 2 avec QRM, on sort vite en Coupe de France aussi contre le Red Star. Et puis on a mis ça de côté, on s'est concentré sur le championnat. Je ne sais pas s'il y a de vérité là-dessus.
La finale de la Coupe de France, en tout cas, elle se jouera le 22 mai prochain. Mais avant ça, l'OGC Nice jouera son avenir en Ligue 1. Parfait. Un calendrier qui arrive tout de suite. Stéphanie Mossmann aux aguets, comme d'habitude. D'abord, la réception du Racing Club de Lens, puis le déplacement brûlant à Auxerre, et normalement, ce qui devrait être le joker à l'Alliance contre Metz, déjà relégué en Ligue 2. L'OGC Nice, on le rappelle, est 15e avec 30 points. On va voir le classement aussi de cette Ligue 1. Alors ça, c'est la première partie de ce championnat. On va voir la deuxième tout de suite. 5 points, c'est le nombre d'unités qui sépare l'OGC Nice du barragiste auxerrois qui recevra Angers et Nice, puis se déplacera lors de la dernière journée à Lille. Un de moins que le Havre, tenu en échec 4 partout contre Metz. Et Normand doit affronter Lille et Marseille avant un périlleux déplacement à Lorient. La course, elle est plus à faire sur Auxerre, sur le Havre, Nico ?
Tout le monde est concerné là par le maintien. Et surtout, il faut regarder uniquement nos performances, pas s'éparpiller sur le calendrier des uns et des autres, parce que sinon, on va perdre de la concentration. Comme l'a très bien dit Romain, le match de samedi va être extrêmement important. Parce que dans le même temps, Auxerre joue une équipe qui n'a plus rien à jouer, donc à voir comment aussi ils vont réagir en face. Mais il va être crucial, et je pense qu'il faut rester dans les mêmes valeurs, avec le même schéma tactique, ne pas penser à cette finale de Coupe de France, et voilà, faire un focus sur le championnat.
Il y a quand même plus de motifs d'espoir contre le Racing Club de Lens dans cette configuration. On le voit, contre Toulouse, ils perdent 2-0, puis ensuite ils renversent la table. Contre Brest également, ils perdent 3-0, puis finalement, là aussi, ils reviennent. Mais c'est plus une équipe B de Lens ces derniers temps. Ils sont quasiment, d'ailleurs, assurés d'être deuxième de cette Ligue 1.
C'est vrai que la dynamique, elle n'est pas pareille. Même le discours du coach lensois, il est un peu plus fataliste. Il essaie un petit peu de remobiliser, mais d'une manière un petit peu autoritaire. Mais je rejoins Nanino, il faut pas penser à leur forme à eux. Il faut penser à notre forme qui est plutôt positive. C'est assez rare cette saison pour être souligné. On ne perd plus, on encaisse moins de buts. Mais clairement, je pense qu'il y aura deux Lens entre le Lens finaliste de la Coupe de France qui aura peut-être pas eu le titre et voilà, qui aura quelque chose à jouer. Et ce Lens-là qui peut-être inconsciemment se dit, bon là, Paris, c'est fini.
Restez bien avec nous pour la deuxième partie de Copa Eglou qui arrive dans quelques instants, juste après la pub. Vous en trouvez sur BFM Nice Côte d'Azur. A tout de suite. De retour sur le plateau de Coupe Aiglon pour évoquer ce match nul, un but partout concédé au Stade Vélodrome. Il est temps de parler des joueurs que vous avez appréciés, un peu moins dans les top flops tout de suite sur BFM Nice Côte d'Azur, dans les top flops. On y va. Commence avec les top flops de Nico. D'un côté, Djoumaba, qui depuis quelques semaines maintenant nous fait... complètement changé notre avis sur ce qui avait été le cas la première partie de saison. Et puis Sofiane Diop en flop, ça devient récurrent.
Ouais, Djoumaba, parce qu'on l'a tellement critiqué, le pauvre, qu'on en a oublié aussi son jeune âge, son peu d'expérience. Et le fait d'être aussi bien entouré, ou du moins plus entouré que ça, il montre ses qualités défensives. Il a gagné beaucoup de duels, il a été souvent très bien placé. Je trouve aussi qu'il a une énergie positive, communicative pour ses partenaires. Et ça, c'est pas anodin, je trouve, à son âge. De manière générale, toute l'animation défensive a été plus ou moins solide, mais lui, je l'ai vraiment trouvé bon encore une fois et dans la lignée de ses dernières performances. Et à l'inverse, Sofiane Diop, il a suffisamment joué pour qu'on puisse le mettre en flop. Un joueur de son statut, de sa qualité, il peut pas rentrer dans un match comme ça en ayant autant de déchets, c'est pas possible, il est capable de faire 100 fois mieux. C'est vraiment décevant. Moi, j'étais persuadé à l'automne dernier que ça allait être sa saison, qu'il allait être le leader de cette équipe, et voilà, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc voilà, encore beaucoup de déceptions sur son match.
Romain, le top est tout trouvé ce soir. Si on a un joueur peut-être à mettre en valeur, c'est Liwayi, qui avait des clients hier. Il y avait d'un côté Medina, de l'autre Balerdi, avec Geronimo Rulli aussi, il y a eu pas mal de frictions. Mais finalement, il a tenu son rang. Ça, c'est pour les tops. Et puis en flop, Morgan Sanson.
un petit peu Morgan Sanson. Je trouve qu'en ce moment, il a un peu du mal, même physiquement, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être lui qui va marquer le but de la, contre Lens ou contre. Contre Lens sur les deux, il mettra peut-être un doublé dans
Kevin,
chaque.
Kevin Carlos aussi, pourquoi pas.
Ah, voilà, Kevin Carlos, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, Morgan Sanson, je le trouve un petit peu en dessous en ce moment. Donc à lui, il a encore sa chance, je pense qu'il va jouer encore. Donc à lui d'essayer de montrer. Qui peut apporter une utilité dans les prochains matchs. Ouais, du déchet. C'est voilà, c'est par rapport à ça. Puis il faut qu'il se batte un peu plus, Morgan. Et voilà. Bon, moi je le mets en flop, mais je mets une petite pièce sur une fin de saison, pourquoi pas, qui peut faire beaucoup de bien à l'OGC Nice sur Morgan Sanson.
On va suivre, hein, ce que me dit Romain Padovani. Et puis en top, Eliwayi, on va revenir sur son match, Romain.
Il fait un geste, en fait, qui est parfait parce qu'une Panenka se fait à un moment donné où personne ne l'attend. Et il n'y a pas grand monde qui l'avait vu, celle-là, à ce moment-là.
Vous l'aviez vu venir, là, messieurs, vous,
Non, mais Rouli aurait pu l'avoir venir. Il a joué avec lui pendant 5 mois. C'était des bruits de couloir qu'il était un peu foufou.
Ah, il est fou.
Et après avoir charrié autant ce joueur. Bah bravo, voilà, magnifique.
Ouais, 70 000 personnes qui le sifflent, sortie. En plus, elle est extraordinaire, elle est parfaite. Elle est parfaite.
Bravo. Pas le...
Son match en soi, il n'est pas extraordinaire, il fait beaucoup de courses, il y va, on met les ballons en profondeur, il fait ce qu'il peut, il court, il va vite. Mais s'il ne marque pas cette Panenka là, il n'y a pas grand chose à retirer. Mais voilà, pour ce coup de génie.
Bravo pour la célébration de ne pas avoir pris un deuxième jaune aussi. Parce qu'à sa place, j'aurais fait le tour du stade et j'aurais chambré tout le monde, j'aurais pris un jaune.
Et puis, il faut essayer le match aussi avec justement, comme vous l'avez bien dit, les deux défenseurs.
Le top du soir, on le dit pour nos téléspectateurs, c'est Eliwayi, hein, pour vous, John.
Ouais, voilà, c'est je continue ton top. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un match dans le match aussi, enfin mine de rien, quand Balerdi refuse qu'il prenne un petit peu d'eau juste avant le but, pour voilà, l'empêcher tous ces coups un peu fourbes, façon argentin. J'ai trouvé ça très, très, très fort mentalement, même s'il n'avait pas marqué ce but, je pense que je l'aurais pas mis en flop pour autant, parce que c'est intense, on est au Vélodrome quand même. Et enfin voilà, c'était incroyable.
Le flop, c'est sur les situations de coups de pied arrêtés mal négociés par la défense niçoise. C'est ça que vous m'avez dit,
par message. J'ai parlé déjà des transitions ratées un peu défense-milieu qui permettaient d'apporter aucun danger sur un bloc bas. J'ai trouvé que. Alors, Djoumaba est aussi un de mes tops, donc t'as tout dit. Mais c'est vrai que ce soit bas ou tous ces joueurs forts de la tête, entre guillemets, on a perdu combien de duels sur ces coups de pied arrêtés. J'ai trouvé ça un peu trop. Sur un match où on était bien dans le jeu, dans le bloc défensif, et dès qu'il y avait un coup de pied arrêté, ça devenait un peu compliqué.
Messieurs, il est 19h24, on rentre dans le temps additionnel de cette émission, c'est l'heure du focus. Focus sur le match de mercredi, messieurs, est-ce que ce Strasbourg-Nice rentre dans l'histoire du club ? Est-ce que c'est un match qu'on peut qualifier comme le bandeau en bas, vous le voyez sur l'écran, est historique. Historique, oui ou non, Nico ?
Non.
Romain ?
Non plus.
J'aime les débats, moi. Oui. Je suis chaud.
On va commencer par vous, John. Pourquoi ce match est historique ?
Il est historique parce que on parle quand même d'une saison qui a vu un changement de direction, qui a vu des joueurs, des recrues pas du tout au niveau. On est passé par toutes les émotions dans cette saison et beaucoup d'émotions négatives. Et ce match-là peut vraiment être un tournant historique sur l'OGC Nice parce que on est à un match de pouvoir se retrouver en Coupe d'Europe. Est-ce qu'on le mérite sur la saison régulière ? La réponse est toute trouvée.
Je pense qu'il n'y a pas trop de
doute là-dessus. On fera pas de débat la semaine prochaine sur ça, mais on peut jouer l'Europe. Mais grâce à ce match, dans un stade quand même à l'extérieur, à la Méno, où on avait vu Lens la semaine d'avant, le 12e homme était présent, j'ai trouvé que ces valeurs d'abnégation dont tu parles, c'est clairement le ciment qui peut rendre cette saison historique, en fait, sur la fin de saison.
C'est trop de dire que c'est un match historique.
Il le sera si le 22 au soir on a la coupe entre les mains. Là pour l'instant il nous permet de rêver et d'apporter un peu de piment dans cette fin de saison. Et puis surtout je pense que dans les têtes il est très très important parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas gagné, qui plus à l'extérieur sans prendre de but contre une équipe qui en met beaucoup, qui sortait d'un match retour en Conference League de très haut niveau et qui a aimé l'équipe titulaire. Donc mentalement je pense qu'il a donné beaucoup de confiance au groupe. Après, des matchs historiques, il y en a eu aussi à l'OGC Nice, donc c'est peut-être le mot était peut-être encore un peu fort.
Mais c'est galvaudé pour vous, Romain, ce terme.
Historique, ce sera la victoire, ce sera la victoire, ce sera historique. Après, pour parler du parcours, j'ai envie d'y croire pour la finale. Parce qu'il faut rappeler que Nice se qualifie contre Montpellier en perdant 2-0.
À la 70e minute, hein, Nice, il y avait 2-0 ça, pour Montpellier.
Nice se qualifie contre Lorient avec une séance de tirs au but et c'était quasiment.
On perdait
deux
tirs au but à 0. On était.
C'est irrationnel à démarrer.
C'était des remontadas.
Ils vont gagner à Strasbourg sur un match différent, un peu plus maîtrisé. Et on a envie d'y croire.
Ça fait la remontada, la saison de la remontada. Normalement, la Coupe d'Europe.
C'est un parcours qui vous procure plus de plaisir, celui-ci, là, que suite 2022 avec Paris, avec Marseille. Non, c'est un gros parcours.
Le parcours qu'on fait en 2021-2022, ouais. Pour moi, il est de très haut niveau parce que tu sors Paris au parc avec une Panenka de Dante. Tu en mets 4 à l'OM à domicile. Tu bats Versailles en demi ou. Mais même si c'est Versailles, il y a le stade qui est plein, tu sais que tu vas aller en finale. Donc le parcours, il était magnifique. Et puis l'ambiance générale de la saison aussi permettait cet engouement différent. Là, c'est moins le cas, mais c'est une bouffée d'oxygène aussi dans une saison très compliquée.
Romain, on l'a dit en début d'émission, vous avez participé à une demi-finale de Coupe de France. Il y avait aussi ce 16e de finale l'année d'avant contre Monaco.
Oui. Oh oui.
Le Monaco des Mbappé, des Lemar, des Moutinho, où vous perdez 5-4 après prolongation et vous marquez d'ailleurs.
Celui-là, il est historique pour Chambly.
On est d'accord. C'est une compétition à part, vous pouvez nous le confirmer, la Coupe de France.
La magie de la Coupe, elle existe vraiment. C'est incroyable. Alors, cette année, il y a moins d'équipes de l'échelon inférieur qu'il y ait. On a eu Cannes l'année dernière.
Oui. Elle est plus pour les petits clubs du coup.
Alors pour les deux, ce que je disais en début d'émission, c'est que de toute façon, les joueurs de Ligue 1 ne s'habituent pas à une finale au Stade de France. Et ouais. C'est quand même un truc pour eux qui est particulier, même pour des joueurs de Ligue 1. Voilà. Et encore plus pour ceux qui sont en dessous. C'est des rêves de gosse, ça.
Bon, messieurs, l'OGC Nice était favori en 2006 contre Nancy. Il y a eu défaite. L'OGC Nice était favori aussi en 2022 contre Nantes. Et il y a eu défaite. Le GC Nice n'est pas du tout favori contre le Racing Club de Lens. Est-ce que vous me voyez venir Oui, Nico.
Moi, je m'avance peut-être trop, mais je suis persuadé qu'on va la gagner.
En fait, à chaque fois qu'on pense qu'ils vont perdre, ils gagnent. Genre, Strasbourg, honnêtement.
C'est ce que j'étais tenté de décider du savoir.
Il y a des signes, tu dois jamais te retrouver là. La France du foot, toute la France du foot et derrière le RC Lens et salit l'OGC Nice.
Ça c'est vrai.
Donc qu'on balance ces extraits vidéo là qu'on entend depuis la qualification à Strasbourg dans le vestiaire jusqu'à la finale et qu'on aille gâcher la fête.
On parlait de plaisir. Est-ce qu'il y a eu plus de plaisir? Je sais pas, mais en termes d'émotion sur les remontadas, en termes d'émotion, je pense qu'on est sur un des climax avec cette saison où on sort Marseille et Paris. Plus de plaisir à cette saison, mais en termes d'émotion et de remontada, ça n'exclut rien pour la finale.
Avant de se quitter, petite communication autour de l'OGC Nice et de ce match d'abord de championnat face au Racing Club de Lens. Ce sera samedi à 21h05. Le club met à disposition aux abonnés une invitation dans la limite des places disponibles, plus 3 places supplémentaires à moitié prise. Si vous n'êtes pas abonné, les acheteurs de places cette saison bénéficient d'une réduction de 50% sur leurs billets jusqu'à 4 places. Celles pour les 4-11 ans sont à 5€ dans toutes les tribunes. Hors hospitalité, les places premier prix sont elles aussi particulièrement attractives à partir de 10€ pour le grand public. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés.
Merci à vous, tous au stade contre Lens.
Absolument, tous au stade contre Lens, tous au stade de France aussi, le 22 mai prochain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Copéglon. D'ici là, passez une très très bonne semaine. Bye bye.